France Culture.
C'est le journal de la rédaction, Estelle Caméraire, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Un premier pas qui ne satisfait pas les aspirations, les espoirs du peuple kurde. En Syrie, hier, un décret présidentiel a fait du kurde une langue officielle et garantit des droits nationaux à cette minorité qui juge le texte insuffisant, alors que les combats entre l'armée et les forces kurdes continuent. Nous irons en Argentine où les agriculteurs se réjouissent du traité entre les pays du Mercosur et l'Union européenne qui doit être signé aujourd'hui après 25 ans de négociations. Un autre accord qui rentre en vigueur cette fois-ci, le premier traité sur la haute mer qui vise à protéger 30% des océans d'ici à 2030. Nous en parlerons avec notre invité Joachim Claudet. En France, le ministre de l'économie Roland Lescure a évoqué ce matin des chiffrages en cours au sujet d'une éventuelle surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Depuis ce matin, l'armée syrienne contrôle la ville de Deir Afer, à l'est d'Alep. Hier, les forces kurdes ont accepté d'évacuer après de récents combats dans la région. Pour rappel, dans le chaos de la guerre civile de ces dernières années, la minorité kurde s'était emparée de vastes territoires du nord et du nord-est de la Syrie, là où sont installés des champs pétroliers et gaziers. Mais hier, Christian Chesneau, la présidence syrienne, a signé un décret garantissant aux Kurdes des droits nationaux.
Pour la première fois depuis l'indépendance de la Syrie en 1946, la langue kurde pourra être enseigné dans les écoles. Le nouvel an kurde, le Nowruz, célébré le 21 mars, sera dorénavant un jour férié officiel. Ahmed Eshera, l'ancien djihadiste devenu l'homme fort du pays, affirme que les Kurdes constituent une partie intégrante du peuple syrien et qu'ils s'engagent à garantir leurs droits. Le décret signé par le président accorde la nationalité syrienne à une partie des Kurdes qui avaient été privés de leur citoyenneté depuis le recensement de 1962. Ces annonces interviennent au moment où l'accord de 2025 visant à intégrer les institutions civiles et militaires kurdes au sein de l'État syrien sont dans l'impasse. C'est l'une des priorités du président islamiste dans sa quête d'unification du pays. Profitant du chaos de la guerre civile syrienne, les Kurdes ont mis en place une administration autonome dans le nord-est de la Syrie, baptisée Rojava, où se trouvent les champs pétroliers. Ils estiment que le décret du président Ahmed Eshera constitue un premier pas dans la bonne direction, mais ces droits doivent être inscrits dans la Constitution et non pas dans des décrets temporaires selon eux. Après les massacres d'Alaouites et de Druze, la confiance des Kurdes vis-à-vis du pouvoir de Damas s'est considérablement effritée, d'où leur réticence à désarmer.
Et je précise que 2 soldats syriens ont été tués ce matin par les forces kurdes, alors que les militaires syriens se déployaient dans la zone à l'est d'Alep. De leur côté, les Kurdes affirment qu'une attaque des forces gouvernementales a tué plusieurs de leurs combattants. Et plus de 3000 morts en Iran durant la répression, selon une ONG de défense des droits humains basée aux États-Unis. Des rassemblements sont prévus cet après-midi en France, en solidarité aux manifestants iraniennes et iraniens au pays. Nous y reviendrons dans le journal de 18h. Les négociateurs ukrainiens sont arrivés aux États-Unis pour la suite des pourparlers avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner. Au même moment, Kiev subit des coupures de courant et de chauffage massives en plein hiver. Conséquence des frappes russes sur les infrastructures énergétiques. Après 25 ans de négociations et malgré l'opposition de la France, l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne sera signé aujourd'hui à Asunción, au Paraguay, en présence d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et des chefs de l'État uruguayen et argentin notamment. L'accord fait des heureux en Argentine, grand pays producteur et exportateur. Le gouvernement ultralibéral et les agriculteurs se réjouissent. À Buenos Aires, Caroline Vic.
Reconnue pour son bœuf de qualité et son soja, dont elle est le 3e exportateur mondial, l'Argentine produit également de la laine en Patagonie, des citrons à Tucumán, des fruits rouges à Bariloche et du vin sur tout son territoire. Le secteur agricole est l'un des plus dynamiques du pays. L'accord de libre-échange est donc plutôt perçu comme une opportunité par les agriculteurs argentins. Carlos Castagnani, président des Confédérations Rurales Argentines.
On sent surtout de la satisfaction pour les perspectives que ça nous ouvre, car l'Argentine a la capacité productive et technique pour augmenter sa production. Et puis, on a déjà eu la visite de spécialistes de l'UE, ils ont été surpris du niveau sanitaire et de contrôle de l'Argentine. Donc, on n'a pas à avoir peur des exigences de l'UE, puisqu'on est tout à fait à la hauteur. Ce nouveau marché va générer une compétition saine et il va nous demander plus d'efficacité. Donc, si les règles sont claires, Ce sera une bonne opportunité pour
tous.
L'accord est donc vu d'un bon œil, mais les agriculteurs réclament tout de même au président Javier Milei des mesures comme la baisse des taxes et des coûts internes pour favoriser l'investissement et réellement tirer parti de cette ouverture du marché européen.
Cet accord-ci a déjà été signé et entre en vigueur aujourd'hui. Le traité international sur la haute mer, premier cadre juridique dédié à la protection de l'océan en zone internationale, il vise à protéger 30% de l'océan d'ici 2030. Un objectif international fixé lors de la COP15 de la biodiversité en 2022. Cet accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine en haute mer a été signé par 145 États, ratifié par 81. Il était discuté depuis 20 ans, son entrée en vigueur est un grand pas, mais ce n'est qu'une première étape. Joachim Claudet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Cet accord est discuté depuis 20 ans. Greenpeace l'a qualifié de plus grande victoire écologique de tous les temps. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce traité ?
Alors, ce qu'il faut en attendre, c'est que... Enfin, on a un cadre juridique international pour pouvoir réglementer les activités humaines en haute mer qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité. Et donc, c'est la première fois qu'il y a un cadre juridique à viser de conserver et utiliser de manière durable la biodiversité en haute mer.
Il reste beaucoup à faire pour le rendre concret. Comment va-t-il être mis en place ?
Alors, la mise en place, c'est qu'il va d'abord y avoir une première COP, donc une, comme il y a des COP climat, des COP biodiversité, une première COP BBNG, donc autour de ce traité, qui doit se passer à New York, au siège des Nations Unies, dans les 12 mois. Et dans cette COP va se décider un certain nombre de choses, comment les décisions vont être prises en lien avec un organe scientifique subsidiaire, le lieu du secrétariat de ce traité. Pour l'instant, il y a une proposition du Chili et de la Belgique. La France soutient la proposition du Chili. Et il y a depuis 2 jours une proposition également de la Chine pour héberger le secrétariat.
Il existe déjà des réglementations, notamment sur la pêche commerciale, le transport international et les fonds marins. Comment cela va s'articuler en fait ? Quelles difficultés cela peut poser dans la mise en place de l'accord ?
Alors là, vous mettez le doigt sur un enjeu fondamental de ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est l'articulation entre ce nouvel outil, ce nouvel organe BBNG et les autres outils. Puisque, par exemple, dans la haute mer maintenant, va être possible de mettre en place des aires marines protégées. Des aires marines protégées ont pour visée de conserver la biodiversité en réglementant les usages humains. Or, le trafic maritime est réglementé par l'Autorité internationale des fonds marins. La potentielle exploitation minière est réglementée par l'Autorisation internationale des fonds marins. Le trafic maritime, c'est l'Organisation internationale maritime. Et la pêche, c'est un certain nombre d'organisations régionales de gestion des pêches. Et donc, il va devoir y avoir une cohérence, une articulation entre BBNG et les autres organes de gestion. Or, ce sont les mêmes États qui siègent dans BBNG et dans les autres organes. Et donc, il faut que les États y amènent de la cohérence.
Et ce traité donc va permettre de créer ces aires marines protégées en haute mer. En quoi est-ce essentiel aujourd'hui ? Est-ce que ça peut se faire plus rapidement aussi dans certains endroits ?
Alors, c'est essentiel parce que on impacte grandement la biodiversité de par nos activités. Or, on en dépend. Une partie de la régulation du climat par l'océan est liée à la biodiversité. Une partie de la captation du carbone dans les sédiments est liée à la biodiversité. On dépend de la biodiversité pour se nourrir avec la pêche. Donc, il est fondamental de la maintenir pour pouvoir utiliser durablement les écosystèmes. Et donc, les aires marines protégées sont le seul outil qui existe pour conserver la biodiversité. Et jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas en mettre en place dans les zones au-delà des juridictions nationales et qui représentent quand même en surface presque la moitié de la planète et les 2/3 de l'océan.
Et dans un contexte où le multilatéralisme est fragilisé, est-ce que ce traité, c'est une bonne nouvelle ?
Bien évidemment, ça a pris très longtemps à être négocié, presque 20 ans, mais bien évidemment, c'est une nouvelle importante puisque ça montre que malgré le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le multilatéralisme est toujours possible et que ça peut amener à des victoires importantes, même pour protéger l'océan qui n'est pas au centre des préoccupations de tout le monde.
Et une dernière question concernant les États membres de l'ONU qui n'ont pas ratifié le traité. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça ?
Eh ben, normalement, ce qui va se passer en haute mer va s'appliquer à tous. Mais les pays qui ne ratifient pas le traité peuvent ne pas, ils ne siégeront pas au COP, donc ne seront pas partie prenante dans les décisions.
Et très bien, merci Joachim Claudet d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directeur de recherche au Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement. Midi 40 sur France Culture, alors que la perspective d'un vote par les députés sur le budget s'éloigne, deux scénarios se dessinent, un passage du texte par ordonnance ou le recours à l'article 49.3 que le Premier ministre avait promis de ne pas utiliser. Mais l'objectif actuel de Sébastien Lecornu est d'éviter la censure. Il a donc mis sur la table hier plusieurs mesures dans l'espoir de rassembler, notamment la généralisation des repas à 1 euro pour les étudiants, la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, mais aussi une augmentation de la prime d'activité. Se pose néanmoins la question du financement. L'une des pistes, une surtaxe sur les grandes entreprises déjà existantes qu'évoquait ce matin le ministre de l'économie, Roland Lescure, au micro d'Adrien Becht sur France Info.
Dans le budget initial du gouvernement, il y avait une évolution de la surtaxe, c'est-à-dire un impôt supplémentaire pour les très grandes sociétés qui gagnent de l'argent. On est en train encore de caler les derniers chiffrages. Pourquoi ? Parce qu'on est encore en train de négocier avec les groupes parlementaires du Sénat l'évolution des dépenses des collectivités locales. Nous l'avons dit, je vous le redis aujourd'hui, l'État va faire des efforts extrêmement importants. C'est des efforts qu'on va demander à nos fonctionnaires, évidemment, mais surtout dans les dépenses de l'État, pour continuer à redresser nos finances publiques, tout en finançant nos priorités. Un budget, c'est pas juste un exercice comptable, c'est aussi un exercice économique. En privilégiant le travail, il n'y aura pas d'augmentation du coût du travail. Donc, la première priorité, c'est le travail et c'est le revenu de ceux qui travaillent. La deuxième, c'est la jeunesse, avec un certain nombre de décisions qui sont prises pour soutenir les universités. On avait une loi de programmation de la recherche. Son parcours est maintenu, les bourses étudiantes, on aide les étudiants. La troisième, c'est le logement. Aujourd'hui, le vote du budget, j'allais dire traditionnel, est malheureusement proscrit du fait de la manière dont les débats sont produits. Moi, j'ai été élu à l'Assemblée nationale. Je préfère toujours que l'Assemblée nationale puisse se prononcer. Voilà, et on verra dans les heures qui viennent ce qu'on décide.
Et lors de son allocution hier, le Premier ministre n'a rien dit de cette éventuelle surtaxe sur les bénéfices des entreprises, censée aider à la négociation avec le PS, mais repoussée à l'Assemblée, on le rappelle. Le théâtre a perdu une figure exceptionnelle hier. Valérie Dovarina, auteur, metteur en scène et peintre, s'est éteint à l'âge de 83 ans. Les Novariniens, nom donné à la tribu de ses interprètes, sont en deuil. Dans les matins de France Culture, de Nicolas Herbeau, l'auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de la Colline à Paris, Wadji Mouawad a rendu hommage à Valère Novarina, qui a mis en scène plusieurs spectacles à la Colline.
C'est rare de côtoyer des vrais poètes. C'est rare d'avoir des poètes à notre époque. On est entouré de cuistres en ce moment. Il y a beaucoup de violence dans la manière avec laquelle on use de la parole. Et puis, pouvoir côtoyer un homme comme Valère Novarina, c'est pouvoir parler des projets, parce qu'en fait, concrètement, je l'invitais à venir à la Colline faire ce qu'il voulait. Il était un accompagnant des acteurs qui étaient les réceptacles de ces textes. Il faut dire aussi que Valère, c'est un peintre, et donc il faisait de l'espace, un espace d'où surgit vraiment la parole, dans un espace peint, inventé, mais où l'acteur devenait véritablement cet animal parlant. Les textes n'étaient pas des textes narratifs, c'était des textes de vertige par la parole. La question qui se posait beaucoup, c'est comment faire entrer les acteurs depuis les coulisses? Comment ça entre un acteur dans l'espace pour prendre la parole? Et il faut dire que c'était tellement drôle, ça déclenchait des rires incroyables. Il faut imaginer une salle de 700 personnes devant un spectacle qui pouvait parfois durer 2h30, 2h45, où il n'y a pas une seule histoire, il n'y a pas de narration, mais plié de rire grâce au langage. C'était entre Sempé, Raymond Devos, enfin, je ne sais pas comment, c'est inclassable, c'est vraiment inclassable. Il fallait éprouver cette expérience au théâtre.
Et un mot sur le temps pour terminer. Très perturbé dans le sud-est, des orages sont attendus dans l'Hérault et de la pluie sur la majorité de l'Hexagone. Côté température, il fera 6 degrés à Strasbourg, 10 degrés à Brest, 15 degrés à Ajaccio. Et c'est la fin de ce journal préparé par Brice Garcia à la technique Alex Dang. Midi 45 sur France Culture.